Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Lou Momège.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e édition de Microcité, votre émission d'information de la semaine en direct sur Radio Campus Grenoble. Il est 16h30, au programme ce vendredi, le milieu du cinéma en crise. Le confinement a eu un impact lourd sur l'économie des salles obscures. Le couvre-feu est un coup dur supplémentaire, surtout à cette période de l'année qui est souvent plus lucrative pour les cinémas. Shannon Marini recevra à cette occasion Patrick Ortega, directeur du cinéma Le Club à Grenoble. En fin d'émission, on parlera BMX, un sport extrême où vélo et figures acrobatiques sont de mise, mais surtout un sport considéré comme très masculin. Mathilde Cariou s'est rendue à Lande, près de Clermont-Ferrand, pour rencontrer une championne dans le domaine et renverser quelques stéréotypes. Vous êtes bien sûr Campus Grenoble 90.8, on reste ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti! Il est 16h31, le journal avec Alizée Cheboub. Bonjour Alizée.
Bonjour Lou. À 11 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden se sont à nouveau affrontés hier soir à Nashville. Un débat jugé plus constructif que les précédents. Lucille Bess fait le point dans ce journal. Alors que l'enquête sur le parcours du meurtrier de Samuel Paty avance, l'éducation nationale, elle, tâtonne. Faut-il aborder le sujet avec les élèves? Comment? Quid de la minute de silence? On essaiera de répondre à ces questions avec Christelle Delfos. Et enfin, les vacances de la Toussaint riment souvent avec Halloween. Pourtant, cette année, on va plus avoir peur du virus que des vampires. Les nouvelles restrictions sanitaires risquent de gâcher la fête. On entendra la voix des commerçants dans quelques minutes.
Un conseil de défense s'est tenu ce matin, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, mais aucune mesure concrète n'en est ressortie.
Alors effectivement, la fin de ce conseil s'est conclue par une très courte déclaration du Premier ministre ce midi. Deux éléments ont principalement été évoqués. Pénalisation de la mise en ligne de contenu qui pourrait mettre en danger la vie d'autrui et renforcement de la protection des fonctionnaires.
Alors Alizée, on remarque que la modération des contenus sur Internet revient de plus en plus souvent sur la table.
Alors tout à fait. D'ailleurs, le Premier ministre s'est déplacé cet après-midi à Bruxelles afin de discuter de la haine sur Internet au niveau européen. D'autre part, le gouvernement mentionne de plus en plus fréquemment le retour de la loi Avia, censée lutter contre la haine en ligne, alors qu'elle a déjà été jugée contraire à la Constitution. Pour Emmanuel Marty, enseignant, chercheur et spécialiste des médias et de l'Internet, il faudrait donner plus de moyens aux réseaux sociaux.
Je pense que l'arsenal légal aujourd'hui permet de punir ceux qui insultent, qui diffament, qui appellent à la haine raciale. Je ne crois pas qu'il faille une loi de plus là-dessus qui viendrait restreindre les libertés et qui pourrait pousser les plateformes à l'autocensure et à faire elles-mêmes le tri de ce qui est dangereux, acceptable, etc. Il faut qu'elles puissent le faire a posteriori et pas a priori et surtout le faire avec des ressources humaines, si je puis dire, et pas de manière algorithmique, à la hache, a priori, en disant s'il y a tel mot ou s'il y a telle image, on refuse en bloc.
Mais l'attentat du professeur Samuel Paty touche également directement l'éducation nationale. Le ministre Jean-Michel Blanquer a affirmé cette semaine qu'il fallait mettre en place un travail pédagogique avec les élèves de primaire, du collège et du lycée. À 10 minutes du retour des vacances de la Toussaint, quelles sont les attentes des professeurs à ce sujet? Réponse à Grenoble avec Christelle Delfos.
François Lecointe est enseignant d'histoire-géographie au collège Jules Vallès à Fontaine, dans la métropole grenobloise. Il attend plus que de simples mesures symboliques.
Nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est ce qui se reproduit justement, ce qui s'est passé, on va dire, en 2015. Ces minutes de silence qui étaient un peu tirées du chapeau, à savoir qu'il n'y avait pas forcément d'explication pour les élèves sur véritablement ce qui s'était passé. Il nous faudra plus qu'une journée pour que véritablement ça fasse sens pour les élèves et qu'ils en retirent véritablement quelque chose.
Les élèves aussi attendent une discussion avec leurs professeurs, comme Sacha, en classe de 3e.
Moi, ce que j'attendrais, c'est qu'on nous explique mieux l'événement avec des mots plus simples, parce que je pense qu'on est pas mal à avoir pas vraiment tout compris ce qui s'est passé.
Et pour François Lecointe, qui est également secrétaire général adjoint du syndicat enseignant SNES-FSU en Isère, des changements doivent être apportés sur le long terme. Le MC, l'éducation morale et civique, qui est donnée dans les collèges et les lycées, est, dit-il, un enseignement qui manque de temps et de moyens.
Il y a des choix qui sont des fois dans les établissements et que pour finir des programmes, et bien, ou bien on passe très très rapidement sur des enseignements et l'éducation morale et civique, on fait les frais. Quand on doit aller vite, on coupe et quand on coupe, toute la question de la discussion, du débat, c'est souvent des moments qui sont peu mis en œuvre.
Le corps enseignant espère donc obtenir plus de temps pour travailler avec les élèves sur ce cours, dont le programme avait été publié après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.
Et alors que les Pays-Bas reconfinent et que les cas de Covid atteignent des nouveaux records en Espagne, la situation s'aggrave en France aussi. 42 000 cas de Covid supplémentaires en 24 heures, Alizée Chaboub, c'est un nouveau record.
Et oui, un nouveau record qui pousse à de nouvelles mesures. La carte de France se teinte de plus en plus de rouge alors que les villes sombrent dans le noir. Le couvre-feu qui ne concernait que 9 métropoles hier encore s'étend. Hier soir, le Premier ministre a annoncé que 54 départements seront désormais concernés. Le Bas-Rhin, l'Ain, les Hautes-Alpes ou encore l'Isère ou la Polynésie. 54 départements, c'est quand même 70% de la population française qui sera privée de sortie entre 21h et 6h du matin à partir de demain. Mais d'autres aspects ont également été évoqués. Lancement d'une nouvelle application de traçage et octroi de 115 millions d'euros au secteur de la culture, notamment pour les théâtres et cinémas qui sont particulièrement touchés par le couvre-feu. On approfondit cette question dans notre dossier dans quelques minutes.
Un couvre-feu qui décidément tombe mal niveau calendrier, en plein milieu des vacances de la Toussaint.
Et oui, et qui dit vacances de la Toussaint dit Halloween, mais cette année la fête des morts risque d'être de courte durée. Vous ne croiserez probablement pas de fantômes ou de petites sorcières dans la rue. Alors que les boîtes de nuit, bars et autres restaurants seront pour la plupart fermés, les commerçants de Grenoble anticipent déjà de grosses pertes économiques. Colline Mollard les a rencontrés.
Un bonbon ou un sort ?
Cette année, peu d'enfants iront toquer chez leurs voisins pour demander des bonbons. Pas question de sortir de la maison pour Cléo, 8 ans.
Moi, je pense que je vais le faire un peu, mais je vais pas aller vraiment chez les gens, je vais plutôt le faire avec mes cousins.
Moins de festivités et un gros manque à gagner pour Fête à Fête, magasin de déguisement et de décoration. Halloween représente 45% de son chiffre d'affaires annuel, selon le directeur Nils Roux, et les plus grosses pertes se situent au niveau de la clientèle professionnelle.
Le lendemain du couvre-feu, on a eu nos 78 réservations de location qui ont été annulées. Toutes les boîtes de nuit déjà aussi, qui représentent allez, 10% du chiffre d'affaires sur Halloween. On est partenaire avec un peu plus de 36 bureaux d'étudiants. Cette année, restrictions, donc aucune soirée au nom des BDE. C'est des pertes énormes au niveau des professionnels.
Pareil évidemment pour les bonbons. Laure Guiborébeau, gérante de la boutique de friandises La Paille d'Or, observe des ventes déjà en baisse et des fournisseurs réticents.
D'habitude, j'ai plein de petites sorcières en pâte d'amande, des petits diables, des petits fantômes, etc. Et là, c'est les fournisseurs qui ont décidé cette année de ne pas les faire. Ils ont peur de ne pas pouvoir les vendre, donc ils ont réduit un peu leur variété.
Et pour cause, cette année, Halloween, ce sera à la maison et en petit comité.
Et si vous voulez tout de même effrayer vos voisins, n'hésitez pas à opter cette année pour un costume de coronavirus.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Dernier débat hier soir entre les candidats à la présidentielle américaine. Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés à Nashville à 12 jours de l'élection, dans un climat plus serein que leur premier débat à Cleveland. On revient sur la soirée avec Lucille Bess.
Oui, on peut dire merci aux organisateurs qui ont décidé de couper les micros des candidats pendant la prise de parole de l'autre. Une heure et demie de débat, plutôt constructif donc, mais les candidats ont tout de même distribué des coups. Donald Trump a notamment accusé Joe Biden d'être un candidat corrompu. Joe Biden, de son côté, a attaqué le président sortant sur sa gestion du Covid, déclarant « quiconque est responsable d'autant de morts ne devrait pas être président ».
Mais finalement, est-ce que ce débat aura un impact sur les élections ?
Probablement pas, d'abord parce que si aucun candidat n'a vraiment été en difficulté, aucun ne s'est démarqué non plus. Donald Trump s'est montré plus présidentiel, il était plus mesuré que d'habitude. Joe Biden, lui, il a confirmé sa position de favori en se présentant comme le candidat de la réconciliation entre une Amérique divisée.
Merci beaucoup Lucille, on rappelle que l'élection aura lieu le 3 novembre prochain.
Merci Alizée pour ce journal, on se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Et dans un instant, on retrouve Shannon Marini pour parler cinéma, ou plutôt de l'impact de la crise sanitaire sur le milieu. Confinement, couvre-feu, l'économie du cinéma en souffre et on décrypte ça. Vous avez écouté Microcité, il est 16h39.
Damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Et oui, Halloween approche, c'est dans une semaine. Alors on sympathise un peu avec le diable sur Campus Grenoble, mais tout de suite, on parle cinéma, il est 16h43.
Le dossier de la semaine.
L'industrie du cinéma est une des victimes collatérales du Covid-19 depuis le début de cette crise sanitaire. Sur les 8 premiers mois de 2020, leur activité a chuté de plus de 63% par rapport à l'année dernière. Shannon Marini, on l'imagine, le couvre-feu de 21h à 6h du matin, ça n'arrange pas la situation.
Non, en effet, ce couvre-feu mis en place, on le rappelle, il y a une semaine, dans 9 métropoles, dont Grenoble, a réveillé la colère du monde du cinéma. Pour en parler, Patrick Ortega est en ligne avec nous. Vous êtes le directeur du cinéma du club à Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, négociait la semaine dernière une exception au couvre-feu pour les cinémas, avec la possibilité d'utiliser son billet comme justificatif pour rentrer chez soi après 21h, ce qu'a très vite rejeté le Premier ministre Jean Castex. Le collectif ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, dit du couvre-feu que c'est un coup de couteau dans le dos. Tout d'abord, Patrick Ortega, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, tout d'abord, je voulais préciser, je ne suis pas non plus représentatif de l'ensemble des cinémas de France. D'autre part, les syndicats sont là pour protéger une profession et je ne veux surtout pas les détromper. Après, considérons la crise sanitaire qu'on traverse, ce sont des mots forts, donc tout ce dont je pourrais vous parler, c'est du cas particulier du club, peut-être d'élargir un petit peu sur des salles qui ont des statuts différents, des salles en régie, des circuits. Mais en tout cas, cette mesure de couvre-feu à 21h, et il est vrai problématique parce qu'elle nous oblige à la suppression de la séance de 20h. Après, je veux aussi relativiser, et vous avez cité Roselyne Bachelot, j'ajouterai aussi le CNC et les mesures du gouvernement qui nous accompagnent pour essayer de traverser, je l'espère, intact cette situation très difficile. Et j'ai pas vraiment envie de rajouter encore ma voix à l'ensemble des voix qui portent toutes des solutions en elles ou des jugements. Je pense qu'on est dans une situation difficile, qu'il faut être constructif, qu'il faut essayer de faire en sorte de pouvoir la traverser tous ensemble. Après, on comptera malheureusement et sans doute des dégâts, mais sans doute aussi des situations qui auraient été moins problématiques que celles annoncées.
Oui, bien sûr, on va parler du coup des aides dont que vous avez mentionnées un peu plus tard. Pour le moment, on va entendre Bernard Vollmer, le directeur du cinéma Les Styrex à Grenoble, sur justement cette mesure du couvre-feu. Lui, il est un peu plus dur que vous à ce propos. Il a répondu au micro de Corentin Bémol. On l'écoute.
C'est un peu incohérent dans le sens où les clusters se passent dans les universités, dans les transports, un peu partout, et donc on cible des lieux culturels, donc on casse cette dynamique qu'on avait un petit peu entrepris en juillet par le fait des sanctions gouvernementales et par le fait des distributeurs qui décalent leurs films.
Est-ce que vous prenez des mesures suite à ce couvre-feu pour essayer de proposer d'autres séances d'autres...
Oui, on a essayé de le faire, mais par exemple aujourd'hui, on a eu deux personnes à midi. On décale les séances à midi, 11h45, mais les habitudes des gens, c'est le cinéma, c'est 14, 16, 18, 20, 22. Donc on a essayé de donner d'autres habitudes aux Grenoblois, mais c'est pas évident du tout.
Est-ce que vous avez une idée de la perte que vous pourriez avoir avec cette mesure de couvre-feu ?
Elle est très simple, 70%, perte de 70% de la clientèle. Depuis le 22 juin, on oscille entre 70 et 75% de perte. C'est énorme. Donc on a eu quelques aides, mais donc ça ne comble pas le déficit. Et l'avenir est un peu gris, si ce n'est noir. Moi qui suis en fin de carrière, c'est une année qui est extrêmement difficile. Et j'ai l'impression qu'on m'a volé un petit peu de ma vie. Enfin, on m'a volé. Le virus m'a volé un peu ma fin de vie, comme on dit. En juillet, la situation était délicate. Actuellement, la situation n'est plus délicate, elle est désespérée.
Voilà donc Bernard Vollmer, directeur des Styrex, qui fait un constat très dur du couvre-feu. On l'a dit, les séances du soir qui attirent en temps normal la moitié du public. On l'a entendu, pour les Styrex, c'est 70% de perte sur le chiffre d'affaires. Au club, Patrick Ortega, que représente la perte du coup des séances du soir ?
Alors moi, je ne parle pas en perte, mais vous comprendrez qu'on a deux analyses différentes et surtout... peut-être une combativité différente. On réalise en effet, depuis l'après-confinement, sensiblement 35%, et depuis le couvre-feu, 35% des entrées qu'on a réalisées à la même période de l'année dernière. Il faut savoir que l'après-confinement, ça avait été la même situation, c'est-à-dire qu'on avait redémarré à peu près à 35% de la fréquentation de l'année précédente et que la charge et la fréquentation avaient un peu augmenté au cours des mois de juillet, août et septembre, puisqu'on récupérait sensiblement 10% de plus chaque mois. Et là, on est revenu à l'après-confinement, en effet.
D'accord. Donc un bilan un peu plus positif. En tout cas, certains amateurs du 7e art sont tout de même au rendez-vous. On va positiver. Lucille Bess est allée à la rencontre des spectateurs de la dernière séance de 18h à la sortie de la nef. On les écoute.
Bah là, en fait, ça fait depuis le confinement que j'étais pas venue. Je trouvais que c'était pas prudent. Par soutien au cinéma, je me suis dit que j'allais venir quand même à 18h.
Puis l'offre est moins bonne. Enfin, en tout cas, elle est moins importante que d'habitude. Il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis. Et les films qu'on voit, on se rend bien compte qu'il y a des films confidentiels qu'on ne verrait pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Et par contre, il y a des films qu'on aurait aimé voir sortir, comme le dernier James Bond, qui ne sortira pas. Donc c'est toute l'économie de la culture qui est touchée et pas uniquement le téléspectateur ou le spectateur qui va au cinéma.
J'ai le sentiment d'y aller plus qu'avant. Comme une façon de dire, faire travailler le commerce. Voilà.
Donc Patrick Ortega, quelle est votre réaction au témoignage que l'on vient d'entendre de ces personnes qui veulent quand même soutenir le cinéma ?
Alors ça, c'est très très important à souligner, et ça on le ressent, c'est-à-dire que, et je le vois avec les spectateurs qui reviennent, qui viennent au club, cette idée de nous aider est très présente, et heureusement. Et en plus, on continue de proposer des rencontres, des débats. On a accueilli une équipe de films pour Slalom la semaine dernière, on va accueillir Samir Ghesmi dans peu de temps, on va accueillir le réalisateur de Gagarine. On essaye d'avoir une offre, je rejoins un petit peu l'avis de l'autre spectateur qui précisait, j'avoue que moi le James Bond me manque pas vraiment, mais c'est vrai qu'il fait partie d'une économie du cinéma et que ça fragilise l'édifice, mais que je préférerais plus apporter d'importance à l'autre témoignage d'une spectatrice qui dit que finalement il y a une proposition diverse et de films fragiles qui n'auraient peut-être pas eu leur place. Et qui sont visibles. Alors c'est vrai que ça demande un certain engagement citoyen, mais c'est le même engagement citoyen finalement que de se dire, bah tiens, les restaurants, on passe une période très difficile, on va aussi aller au restaurant pour les aider. Les cinémas, c'est la même chose. Y a une espèce de réaction citoyenne en quelque sorte, et je remercie vraiment tous les spectateurs qui prennent cette crise vraiment comme il faut, en disant il faut qu'on aide les gens et les lieux qu'on fréquente, qu'on aime, et qu'on les aide à passer ce cap.
Oui, en effet, comme vous l'avez dit, on a entendu un monsieur dire le report des blockbusters, ça permet de découvrir des films plus confidentiels, donc avec des budgets peut-être un peu plus modestes. Est-ce que c'est le cas du club ? Est-ce que vous avez programmé du coup des films que normalement vous n'auriez pas programmé ?
Alors non, parce que évidemment, on est une salle d'art essai. Et que les blockbusters chez nous, c'est quand même très très rare. Là, il y a par exemple le film de Dupontel. Alors, c'est pas un blockbuster américain, puisque de toute façon, ils ne sortent pas, mais c'est quand même un film qui touche un public très large. Donc là, il est à l'affiche, et heureusement, parce qu'il a été question à un moment de décaler la sortie, et heureusement que le distributeur Gaumont a choisi de sortir le film quand même, parce que c'est vrai qu'il attire quand même des spectateurs. Et qui fait à peu près les deux tiers des entrées qu'on réalise actuellement. Mais tous les autres films qu'on propose étaient prévus. C'est des films qu'on voulait sortir pendant le confinement ou après. Mais par exemple, Noé, on a promis ça, La Première Marche, Drunk, L'Enfant Rêvé. On ne peut pas dire que ce soit un pays qui s'y insage, pour lequel on a accueilli d'ailleurs David Dufresne, son réalisateur. On ne peut pas dire que ce soit des films qu'on n'aurait pas programmé si cette situation n'avait pas été celle qu'on traverse actuellement. Donc nous, au niveau de la programmation et de la diversité, ça ne change pas vraiment.
Pour sauver les cinémas, le gouvernement a mis en place un plan de relance, Shannon.
Oui, hier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé ajouter une enveloppe de 30 millions d'euros, en plus des 50 millions de fonds déjà annoncés fin août par le Premier ministre pour compenser les pertes en billetterie de septembre à décembre 2020, et en plus des 165 millions affectés au CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui permettront par exemple d'encourager la sortie de films, d'assurer la survie des cinémas. Donc si on fait les comptes, ça fait au total 245 millions. Donc le gouvernement met quand même pas mal d'argent sur la table. Est-ce que chez vous, au club, vous avez déjà reçu des aides ? Est-ce que vous savez concrètement combien vous allez recevoir de la part de l'État ?
Alors, les aides, normalement, sont promises d'ici à la fin octobre. C'est sensiblement chaque salle. Alors, les situations sont en fonction de la perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc, c'est un calcul assez compliqué. Après, annoncer des perspectives sur les sommes qu'on n'a pas perçues, c'est un petit peu difficile. Mais néanmoins, c'est vrai que la situation des salles est aussi différente. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire un cas général en disant c'est la catastrophe, et c'est la catastrophe sans aucun doute pour certaines salles, Mais là, on met finalement dans un même panier, comme si tous les cinémas fonctionnaient de la même façon, mais il y a des cinémas qui fonctionnent en régie, c'est-à-dire qui dépendent d'une municipalité, où là, c'est vraiment la décision politique qui va faire la différence. Il y a des salles qui sont indépendantes, avec leurs fonds propres. Il y a des salles qui ont engagé des travaux et qui sont en train de rembourser les travaux qu'ils ont faits. Il y a d'autres salles qui sont entre un amortissement et un investissement et qui donc avaient une trésorerie. Enfin, vous voyez, les cas de figure sont tellement différents d'une salle à l'autre qu'il me paraît quand même un petit peu difficile et c'est un peu tronqué une réalité que de dire l'ensemble des salles est dans une difficulté monumentale. Il faut être super attentif. La volonté du CNC de nous accompagner est réelle. Et elle va vraiment nous aider à travers ce cap. Après, il ne faut pas noircir un tableau. Enfin, après, il ne faut pas l'embellir non plus. C'est-à-dire que là, on est vraiment, on met un pied devant l'autre. La situation est difficile. Le couvre-feu, c'est encore une difficulté supplémentaire. Mais qu'en sera-t-il demain si on nous annonce que la pandémie a complètement saturé les hôpitaux? Donc, il y a un moment, c'est pas une guerre de clochers. Je comprends que chacun veuille, moi y compris, veuille défendre son outil de travail, veut défendre son équipe, parce que le club, c'est pas seulement un cinéma, c'est aussi toute une équipe qui travaille. Évidemment que j'ai envie de sauver cet outil-là, mais qu'il faut le remettre dans un contexte. Et il faut relativiser et surtout ne pas généraliser en disant « ça y est, toutes les salles de cinéma vont fermer ».
Bien sûr, mais rassurez-nous, Patrick Ortega, le club va traverser cette crise ?
Mais je fais tout pour. Après, avec l'humilité qui doit nous habiter, aussi bien dans l'interprétation des recommandations médicales. Je suis pas médecin, c'est pas moi qui vais expliquer aux médecins ce qu'il faut faire. C'est pas moi qui vais expliquer que le virus il sort aussi après 21h ou alors il sort avant 21h.
On doit clore ce dossier. Merci Shannon en tout cas pour ce dossier. Merci à vous Patrick Ortega. Vous avez constaté une baisse de fréquentation dans votre cinéma, mais vous avez souligné aussi une volonté d'aider de la part des spectateurs. On rappelle que vous êtes directeur du cinéma Le Club à Grenoble. Radio Campus, il est 16h56. Tout de suite, le Mac de la semaine.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Les championnats de France de BMX se sont tenus à Lens le week-end dernier. Il y avait du beau monde, de belles courses, de beaux vélos, mais comme souvent dans les sports dits extrêmes, pas beaucoup de filles. Mathilde Cariou était sur place.
Des courses trop rapides, des chutes trop violentes, des sauts trop dangereux. Le BMX a longtemps été considéré comme un sport très masculin. Manon Valentino est 6 fois championne de France. Elle raconte comment elle s'est orientée vers la race.
Moi, c'est mon frère qui faisait du BMX. On a tout fait, skate, roller, VTT, on faisait des manuels comme ça. Je les regardais en faire et ma mère voulait pas que j'en fasse parce que c'était trop dangereux. Et en fait, après, j'ai tellement insisté, je piquais tellement les vélos à tout le monde qu'elle m'a laissé faire un an après et puis lui s'est mis au freestyle.
Elle commence donc l'entraînement à l'âge de 11 ans, mais se retrouve rapidement confrontée à un univers assez hostile envers les pilotes féminines.
Le problème, c'était pas forcément qu'il y ait plus de garçons, c'était l'image des filles. Et la façon dont les garçons nous regardaient, et c'est vrai qu'on était assez intimidés parce qu'on disait bah, les filles elles sont comme ci, elles sont comme ça, les filles elles sautent pas, les filles elles ont peur de tout. Et en fait on regardait pas nos courses. Et je me souviens du jour où j'avais fait justement une Coupe du Monde que j'avais failli gagner et on m'avait dit enfin une course intéressante.
Les filles sont de plus en plus nombreuses dans les catégories juniors, ce qui permet d'organiser des quarts voire des huitièmes de finale. Mais malgré la professionnalisation de leur sport, les pilotes ne perdent pas de vue la dimension très libre et très populaire du BMX.
Moi par contre, je peux me lever un dimanche matin, m'ennuyer et dire « Allez, viens, on va rider ». J'envoie un message et on prend les bikes et on va rouler. On peut faire un barbecue, on peut aller rider là. On peut aussi, pour pouvoir travailler d'autres choses, on va faire un peu de champ de boss, un peu de pump track, un peu de skatepark même de temps en temps. C'est de plus en plus pro, mais on garde quand même cette petite part de folie, on va dire.
Alors à toutes celles et ceux pour qui le BMX paraît encore inaccessible, Manon Valentino adresse 2 conseils.
Jamais, 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 au grand jamais oublier de s'amuser. Parce que le jour où on n'a plus envie de monter sur son vélo, ça sert à rien de s'entraîner, on roulera mal. Et après, se forcer à échouer. Parce que c'est toujours en échouant qu'on progresse. Et je me souviens du jour où je me suis dit, ça fait combien de temps que t'es pas tombé à l'entraînement ? Et je me suis rendu compte que je progressais plus. Et c'est ça dans la vie de tous les jours en fait. Donc nous on le voit sur le vélo, parce que quand on met la tête par terre c'est concret, mais c'est dans la vie de tous les jours, il faut se laisser le droit d'échouer. Et puis des fois je me dis, tiens, j'ai sauté cette bosse là, il y a 2 secondes j'avais trop peur. Et quand je suis en l'air, je suis là, oh mon Dieu, et c'est la meilleure sensation en fait.
Il est 16h59, le rappel des titres avec Alizée Chaboub.
Un conseil de défense s'est tenu toute la matinée à l'Elysée, une semaine après l'attentat de l'enseignant Samuel Paty. Emmanuel Macron, le Premier ministre, ainsi que les ministres de l'Intérieur, de la Justice étaient présents. Résultat, peu de nouvelles mesures, mais la volonté de renforcer la modération des contenus sur Internet. Le couvre-feu dans 54 départements, ça commence ce soir à minuit. Ensuite, toute sortie non justifiée après 21h sera sanctionnée par une amende. 70% des Français et des Françaises sont concernés. Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté pour la présidentielle. À 11 jours de la date officielle du scrutin, le vote anticipé bat des records. Pour l'instant, Joe Biden est donné gagnant avec 8 points d'avance. Et enfin, l'Assemblée nationale vient tout juste de voter à la quasi-unanimité le doublement du congé paternité. Il passe ainsi de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires. Cette mesure phare du budget de la Sécurité sociale pour 2021 doit maintenant passer devant le Sénat.
Campus Grenoble, il est 17h, Microcité, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On remercie également Louis Oscovin, fidèle au poste à la régie. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. À très vite sur Campus Grenoble. Et en attendant, joyeux Halloween et bonnes vacances.